bientôt pour 3 jours encore, Umeå dans le grand nord de la Suède est capitale européenne de la culture. En ce moment, à Umeå, qui s'écrit Umeå en français, il fait nuit et la neige recouvre la ville. Mais fin juin, lorsque nous y avions posé nos micros, le jour durait presque 24 heures. Umeå, capitale européenne de la culture. À écouter, à réécouter.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à un Carrefour de l'Europe septentrional, car jamais nous n'avons posé nos micros si haut dans le nord. Nous sommes en Suède, à 600 km au nord de Stockholm, nous sommes à Umeå. Et avouez que vous n'avez jamais entendu parler d'Umeå. D'abord parce que Umeå s'écrit Umeå, avec un drôle de petit accent sur le A qui se prononce O en suédois. Ensuite parce qu'il a fallu du temps pour que cette bourgade forestière devienne une grande ville universitaire aux multiples expériences innovantes. L'espace est ici généreux. Au milieu d'une forêt de pins et de bouleaux, Umeå s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et à la manière d'Alphonse Allais, la ville s'est construite à la campagne, probablement parce que l'air y est plus pur. Malheur toutefois à celui qui ne possède pas de voiture, à moins qu'il ne soit cycliste, comme presque tout le monde. Car le premier commerçant n'habite jamais à côté de chez vous. À Umeå, la mer Baltique n'est pas loin. Dans la ville, les visages souvent jeunes sont souriants. Il y règne une douce décontraction. Et tout au long de cette année, Umeå est en plus capitale européenne de la culture. Umeå cultive-t-elle une certaine idée du bonheur? Carrefour d'Europe est à Umeå, à la découverte des Umeåbors, les habitants d'Umeå. Nous en avons réuni quelques-uns autour de nos micros. Je vous les présente. Margareta Ling, bonjour. Hey.
Hey, bonjour.
Quand on dit hey en suédois pour dire bonjour?
On dit hey. Oui.
C'est familier hey, ou c'est pour toi?
C'est assez familier, mais ça s'utilise. C'est presque la seule façon de se dire bonjour.
Et une autre façon un peu plus protocolaire, c'est goddom ou quelque chose comme ça?
Goddog. Bonjour. Si on traduit tout de suite, c'est goddog, mais ça ne s'utilise pas.
Vous êtes en tout cas l'une des responsables du Umeå 2014. Britta Telljedal, bonjour. Hey.
Bonjour. Hey.
Vous êtes conservateur au Bild Museet. On reviendra un petit peu pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Bild Museet. On peut traduire, c'est le musée de l'image.
Oui,
c'est une traduction assez juste.
C'est ça.
Malini Saxon, bonjour.
Bonjour.
Hey, j'aime bien dire hey.
Hey.
Vous êtes professeur de français à l'université d'Umeå. Kopilikok, vous aussi, vous êtes professeur, non pas de français, mais toujours à l'université d'Umeå. Vous êtes chercheur et spécialiste de la culture des Samis. Les Samis, on y reviendra un petit peu plus tard pour expliquer qui sont les Samis. Olaf Rival et Kaisa Danielsson sont l'un étudiant, l'autre déjà travailleuse, serveuse dans un restaurant. Bonjour. Hey à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Hey.
Julien Weber, vous êtes français. Vous êtes un amoureux de la Suède, sinon vous ne seriez pas ici. Vous avez une longue histoire. Vous avez d'abord été étudiant, puis professeur de tennis, ce qui est quand même très courageux au pays de Björnborn. Puis vous avez été restaurateur. Vous avez même gagné un concours à l'équivalent d'un master chef. Vous êtes top chef, hein, c'est ça?
Master chef. J'ai pas gagné, mais je me suis bien placé.
Et depuis, vous avez ouvert un restaurant ici à Umeå qui naturellement s'appelle
Fransosen, ce qui veut dire le français en suédois.
Ce qui est assez simple. Et puis, au cours de l'émission, nous écouterons la harpe de Nickel, je la traduis comme ça, Nickel Harpa, je ne sais pas si c'est une bonne traduction. En tout cas, on posera la question à Torbjörn Nesbom, qui est un des grands joueurs suédois de cet instrument très particulier que vous allez découvrir, et moi aussi par la même occasion. Margareta Ling, si je dis qu'Umeå est une ville du nord de la Suède, longtemps oubliée par Stockholm, la capitale du pays, et la grande ville du sud, évidemment. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que cela explique que je ne connaissais pas encore Umeå il y a quelques mois?
Alors, bien sûr que c'est vrai. Il faut toujours lutter contre la capitale parce qu'ils pensent qu'ils ont de tout ce dont ils ont besoin chez soi.
C'est l'impérialisme de Stockholm.
Oui, c'est absolument ça. Et pour ça, nous, on a décidé de se tourner tout de suite, sans passer par Stockholm. On a décidé de faire des contacts européens.
Donc
quand on s'est mis dans le concours pour devenir capitale
européenne de la culture. Oui. Mais avant que Umeå devienne capitale européenne de la culture, il s'est passé beaucoup de choses, car il y a quelques années, c'était une toute petite ville, Umeå, Margareta Ling.
Oui, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, c'est la plus grande ville au nord de la Suède. Mais avant, et je pense que ce qui est sûr, c'est que le grand changement, ce qui a fait démarrer la croissance de notre cité, c'est l'université. D'abord, l'école des dentistes, l'école des médecins, et ensuite, dans les années 60, on est devenu le cinquième université de Suède.
Alors, Umeå a fait très tôt, il y a donc ça, environ 20-30 ans, a fait le pari de l'industrie, de la connaissance et du savoir. Qui veut rebondir, Malene Isaksson?
Oui, c'est vrai que nous sommes assez fiers d'avoir une université jeune, et c'est assez facile de travailler aussi dans une université qui est jeune, pas trop,
sclérosée.
Prise par les traditions. Les traditions ne pèsent pas très très lourd, ce qui fait qu'on a pas mal de possibilités de développer des choses un peu nouvelles. Voilà.
Alors les choses un peu nouvelles, ça a été Brita Telkedal, je l'ai bien dit, je crois. Ça a été beaucoup s'appuyer sur l'industrie de la connaissance et la culture.
Oui, on peut dire. Et il y a 2 ans, cette nouvelle campus des arts est inaugurée ici, qui fait partie de l'université d'Umeå. Et ici sont Bildmuseet, le musée de l'université, Umeå Académie des Beaux-Arts, Umeå Institut de Design Industriel, l'école d'architecture et des laboratoires digitales et oui.
Beaucoup de choses. Julie Weber, vous qui êtes français, qui regardez la Suède, même si je l'ai déjà dit, vous êtes un amoureux de la Suède, et forcément d'Umeå, vous êtes là depuis quelques années, est-ce que vous avez senti ce développement d'Umeå?
Oui, la première fois que je suis venu ici, c'était en 2000, et je suis revenu ensuite en 2005, pour m'établir ici, parce que j'ai rencontré une Suédoise, et bon, c'est ça qui fait souvent bouger les hommes, hein, j'ai remarqué.
Oui, et on dit beaucoup de choses sur les Suédoises. Hein,
Oui, enfin, je disais Suédoise, en fait, je parlais de personnes féminines. Mais oui, beaucoup. Mais les grandes blondes aux yeux bleus, oui, il y en a beaucoup, peut-être plus qu'ailleurs, mais il y a aussi des brunes, et il y a de tout à Umeå et en Suède.
Et donc, est-ce que la ville s'est développée avec cette idée qu'il fallait faire des choses moderne, dynamique, faire les bons choix quand on était loin du pouvoir central, comme nous l'a expliqué Maria Tallinn. Qui veut rebondir sur le sujet? Peut-être Coppelikoski ou pas?
Je pense qu'il y a aussi un peu cette idée de concurrence, que Umeå a un sentiment d'être une grande ville, mais pas vraiment une grande ville comme Stockholm, mais dont un petit peu cette envie, ce besoin de se développer et de s'affirmer en
contraste. Et un complexe peut-être, un complexe ou pas?
Je sais pas si on peut appeler ça un complexe. Je pense pas vraiment un complexe, c'est peut-être un peu contraire.
Non, autour de la table.
Margareta le disait, un peu dire qu'on est, on n'a pas besoin de Stockholm. On est la plus grande ville du nord de la Suède. On a ce dont on a besoin pour, au niveau de l'université, de la nature, de ce qu'on peut offrir à la fois à l'Europe et au pays. Donc, pas vraiment un complexe par rapport à Stockholm, mais un envie un peu de s'affirmer en contraste avec les grandes villes.
Olof Ritvall, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre ville? Alors, vous étiez étudiant et vous avez passé 6 mois à Lille, donc la grande ville du nord de la France. Décidément, vous aimez beaucoup les villes du Nord. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre ville? Comment la ressentez-vous?
Bah pour moi, c'est une ville qui est pas très grande. Je sais pas, on connaît tout le monde, c'est convivial. C'est proche à la nature. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, même si c'est pas trop grand. Oui.
Gaïssa Danielson, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre ville, vous aussi?
Moi, j'aime beaucoup ma ville, en fait. Je trouve qu'il y a, parmi les jeunes, surtout, une certaine fierté de venir de Umeå. On est content de vivre ici. C'est ni trop grand, ni trop petit. Il y a beaucoup de transports et c'est suffisant d'avoir sa bicyclette. Et puis, voilà.
Mais c'est très, très grand. C'est une ville qui s'étend, pour une ville de 110 000 habitants, en tout cas, ça m'a frappé, sur des kilomètres, voire peut-être des dizaines de kilomètres, Margaret Tallinn.
C'est ouais. Ça? Mais aussi, c'est sûr que pour le développement de la ville, on est conscient de ça et on essaye maintenant de
densifier le centre de la ville.
Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. On a même, à ce moment, on est, par exemple, en train de faire construire des maisons privées sur le toit d'un grand centre commercial, un centre de ville.
Parce que les habitants du Umeå vivent beaucoup dans des maisons, rarement dans des immeubles.
Hein? C'est ça.
Tout le monde... Et les immeubles, il y a un ou deux hôtels qui atteignent une dizaine d'étages, mais les immeubles les plus élevés du Umeå font 3-4 étages maximum. Hein?
Oui.
Et il y a toujours beaucoup d'espace, comme je l'ai dit. C'est quelque chose d'extrêmement frappant, notamment lorsqu'on vient de Paris où la densité est considérable. Alors, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Torbjörn Nesbom qui joue d'un instrument assez incroyable. En tout cas, j'en avais jamais vu des comme ça. Ça ressemble à un violon sur lequel on aurait greffé une petite harpe. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il paraît que ça s'appelle, le mot le plus proche, c'est une vielle, paraît-il. Mais on va demander à Torbjörn Nesbom d'où vient cet instrument si étonnant.
Det är ett gammalt folkmusikinstrument som är, det finns bevarat på kyrkmålningar ända från 1300-talet.
C'est un vieux instrument folklorique qui a été peint sur des peintures, on le trouve sur des peintures qui datent du 14e siècle.
Och då är det änglar som spelar nyckelharpa.
Et à l'époque, sur ces peintures, ce sont des anges qui jouent.
On est dans l'univers du folklore. Mais est-ce que c'est un instrument qui permet d'accompagner des orchestres, qui permet d'accompagner des chanteurs?
Fast man spelar ofta i grupp, men inget accompagneringsinstrument.
Alors, l'harpe, c'est pas un instrument pour accompagner des chanteurs, mais on joue souvent ensemble, en groupe.
On va écouter et découvrir cette nickel harpa. On peut la traduire par harpe de nickel ou pas?
Harpe de clé.
Harpa clé. On vous écoute. Merci, c'était Torbjörn Nesbom avec son très curieux instrument, nickel harpa en suédois, je ne sais pas si je le prononce très bien. On est ici, je ne l'ai pas encore signalé, dans un lieu bien particulier, très emblématique de la ville, qui s'appelle Slipperet. Alors avant, dans l'ancien temps, c'était un bâtiment industriel où on travaillait le bois. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un lieu expérimental entre le monde universitaire et le monde du travail. Qui veut répondre Brita Teildal.
Oui, et ici c'est une grande maison et des workshops, on peut dire.
Des ateliers en français.
Oui, des ateliers. Ah oui, c'est ça, des ateliers, des Fab Labs ouverts pour presque toutes sortes de créateurs, inventeurs et des entreprises, des étudiants et des scientifiques.
Des scientifiques, oui, oui.
Ouais, ouais. Oui. Ici, dans cet espace assez en toi. Avec des écoles d'architecture, de l'Académie d'art, école design industriel et le Bill Museet. Tout ensemble, et c'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert au public. Alors, il faut expliquer que la notion de transparence, je pense que c'est une notion importante en Suède. Et en tout cas, tout est ouvert. Même si vous êtes un passant, vous pouvez entrer dans l'école d'architecture. Évidemment, le musée est ouvert et il est gratuit. On peut le signaler au passage. Et on peut entrer comme ça, voir, découvrir, échanger, discuter. Et cette université, Margaret Halling, elle attire beaucoup de monde. J'ai notamment visité l'université du design. Il y a des étudiants qui viennent du monde entier. Il y a des Coréens, des Chinois, des Argentins, des Roumains, il y a même des Français qui produisent des choses, qui imaginent des choses tout à fait exceptionnelles et très inattendues.
Oui, c'est ça. C'est justement, comme a dit Britta, là où on se trouve actuellement, l'idée même, c'est de créer un endroit où on peut se mettre en pratique les résultats des recherches et aussi
ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a appris.
Oui. Absolument, et aussi le mettre de créer des idées qu'on peut aussi gagner de l'argent après, faire des entreprises, etc.
Oui.
Et à l'école de design où on a actuellement cette exposition, des trucs, si vous voulez, exceptionnels et qui peuvent même des véhicules, des voitures et aussi des trucs pour aider les malades, etc.
Des tâches inattendues qui peut-être changeront notre vie dans quelques années.
Oui, oui.
Il y a par exemple des petits instruments pour mesurer en permanence le taux de diabète. Il y a des choses permanente pour éviter que les enfants soient perdus la nuit. Il y a des nouvelles conceptions de voitures, d'aérodynamisme, enfin énormément de choses. Quand on les voit, on comprend pas toujours comment ça marche. Ça, on comprend même jamais comment ça marche, mais on comprend même pas parfois à quoi ça pourra servir. Mais c'est, on les aura peut-être dans notre vie quotidienne il y a quelques jours. Tout ça, ça procède un petit peu de l'idée du UMEO 2014, lorsqu'il a fallu poser sa candidature, Margaret Halling. UMEO a mis toute cette idée, toute cette créativité en avant.
Absolument. Il faut dire que grâce à des politiciens visionnaires, on a très tôt vu dans la culture un assez qui peuvent vraiment aider à développer la ville. Et on a décidé dans sa candidature aussi de travailler sur la co-création, la curiosité, la passion, si vous voulez. On a vu cette année culturelle comme un moyen, une façon, un projet pour renforcer la ville, renforcer les habitants, les Umebourg, et renforcer la culture, bien sûr.
Est-ce que tout le monde était d'accord? Je pose la question à Malini Saxon. Lorsque UMEO s'est lancé dans la grande aventure de UMEO, capitale européenne de la culture, est-ce que tout le monde était d'accord? On dit, à quoi ça sert? Ça va coûter beaucoup d'argent, etc. Malini Saxon.
C'est sûr que ces questions-là sont toujours posées. Combien est-ce que ça va coûter aux contribuables, etc., etc. Mais je pense qu'en général, les habitants d'UMEO, les Umebourg, on va le répéter, ça va être un cours de suédois, du coup, sont très fiers de faire partie de cette expérience extraordinaire. Mais c'est sûr aussi qu'il y a quand même une sorte de contre-culture. Enfin, il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils se sentent un peu exclus de tout ce grand projet qui est, malgré tout, un grand projet qui est organisé par les institutions, etc. Et qui n'est pas forcément représentatif de tout ce qui est culture de grassroots, enfin, de populaire, tout ce qui est mouvement populaire.
Gaïssa Danielson, vous êtes plutôt contente du MA 2014 ou pas?
Bon, je trouve que c'est très intéressant, mais après, comme on a déjà dit, il y a pas mal de gens qui sont en fait assez contre, qui se disent que d'abord on a dit que ça allait être quelque chose de vraiment grassroots, et puis c'est surtout devenu quelque chose pour les pour les business. Hein.
Pour le business,
donc,
ouais.
Pour l'économie, donc c'est un peu il y a un conflit par là qui est peut-être inévitable mais très intéressant, et moi je trouve qu'enfin c'est, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, c'est important de les discuter.
En tout cas, grâce à UMEO, capitale européenne de la culture, carrefour de l'Europe est à UMEO, et tous nos auditeurs sont en train de découvrir UMEO tout au nord de la Suède, à 600 km de Stockholm. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. On se retrouve à UMEO, capitale européenne de la culture, dans 3 minutes, juste après les infos. A tout de suite. Pour 3 jours encore, Umeå dans le grand nord de la Suède est capitale européenne de la culture. En ce moment, à Umeå, qui s'écrit Umeå en français, il fait nuit et la neige recouvre la ville. Mais fin juin, lorsque nous y avions posé nos micros, le jour durait presque 24 heures. Umeå, capitale européenne de la culture. À écouter, à réécouter.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, toujours à Umeå, en Suède, dans le grand nord suédois. Umeå, capitale européenne de la culture 2014. Je vous représente rapidement nos invités. Margareta Ling, l'une des responsables d'Umeå 2014. Britta Teljedal, conservateur au Bildmuseet. Malin Isaksson, professeur de français à l'université d'Umeå. Comme Kopeli Kok, qui n'est pas professeur de français, mais qui est une chercheuse et spécialiste de la culture des Sami. Olof Riedewall et Kajsa Danielsson sont deux jeunes d'Umeå. L'un étudie, l'autre travaille déjà. Julien Weber est un Français qui s'est pris de passion pour la Suède et pour Umeå. Et puis on réentendra Torsbjörn Nesbom avec son curieux instrument qui s'appelle Nickel Harpa. Alors on a déjà compris qu'Umeå se projetait dans l'avenir avec un développement axé autour des nouvelles technologies et du savoir. Mais on a très peu parlé du passé d'Umeå. Et le passé est symbolisé par un peuple qui de tout temps a vécu sur ces terres, le peuple Sami, plus connu en français sous le nom de Lapons. Alors les Sami vivent dans le Grand Nord, dans 4 pays, la Russie, la Finlande, la Suède et la Norvège. Longtemps, ils ont vécu de l'élevage du renne. Depuis, ils se sont sédentarisés et vivent désormais dans les villes. J'ai rencontré Eva Koranzaun. Elle dirige le festival culturel Sami et je lui ai demandé ce qui aujourd'hui différenciait les Suédois des Sami.
Jo, självklart, även om man nu lever ett modernt liv i en stad så har man ju kontakt med sina släktingar.
Même si on habite maintenant dans une grande ville, on a toujours contact avec la famille. On veut aussi garder la culture. Elle pense que les amis ont un sentiment très fort, plus fort peut-être que le Suédois en général, un plus fort sens de la nature. Parce que la nature, c'était tellement important. Et surtout, bien sûr, pour l'élevage des rennes.
Jag skulle vilja säga att språket är självklart viktigt, men det är ju sånt som man kan...
La langue, bien sûr, c'est très important, mais c'est quelque chose qu'on peut faire dans son temps libre. Alors, le plus important, de faire entendre son voix, de participer à la vie politique et reprendre le droit de faire des décisions sur la terre, sur l'eau, comme c'était avant que Sápmi a été, comme on dit, colonisé par les Suédois.
Och där ska jag också vilja tillägga.
Actuellement, il y a des exploiteurs de mines, des entreprises étrangères qui viennent exploiter les mines et de la forêt. Et comme les Samis n'y peuvent rien, ils ne peuvent pas faire les décisions, mais c'est eux qui voient les premiers ce qui se passe, comment ça affecte la nature.
Kopeli Kok, on vient d'entendre Eva Koranzaun. Est-ce que le peuple Sami est en voie de disparition?
Au contraire, le peuple Sami est très actif, très engagé. Il y a beaucoup de projets de revitalisation de langue et de la culture. Donc, si on parle des Sami de Suède, par exemple...
Ils sont combien?
Alors, c'est difficile de donner un chiffre, puisqu'il n'y a pas de recensement basé sur l'ethnicité en Suède, officiellement. Donc, c'est pas légal d'envoyer un recensement et demander à quel groupe ethnique appartenez-vous. Donc, les évaluations qui sont faites sont assez approximatives, mais en tout, peut-être 80, 100 000 Samis dans tout le pays Sami.
Dans tout le pays Sami, ça veut dire sur les 4 pays.
Sur les 4 pays, oui.
Donc, ils sont très, très peu nombreux. Enfin, est-ce qu'il y a encore cette grande transhumance qui fait qu'on va de Russie en Norvège en passant par la Finlande et la Suède ou pas?
Quand on parle des Samis, c'est un groupe très hétérogène. Il y a différents groupes samis dans différentes régions. Donc les samis de Russie, par exemple, n'ont peut-être pas beaucoup de contacts avec les samis du sud de la Suède.
Oui, parce qu'il leur faut un visa pratiquement pour passer du...
pratiquement, oui. Mais bon, même si les frontières nationales n'ont pas une très grande importance pour l'identité sami, puisque c'est quand même une nation, un peuple uni, il y a quand même une grande différence de langue. Par exemple, il y a 10 langues samis différentes. On peut parler de langues différentes, puisqu'un Sami de Russie, par exemple, ne comprendra pas un Sami qui parle le Sami du Sud.
Alors, il y a une richesse dans le vocabulaire, notamment pour dire le mot « neige ». En français, on dit « neige », point. Il y a un seul... Mais en Sami, il y a des dizaines de façons de dire le mot « neige ».
Il y a beaucoup de sortes de neige aussi, ici. Beaucoup plus qu'en France.
Ça veut dire qu'il y a des neiges dures, des neiges douces, des neiges qui glissent.
Oui, la terminologie par rapport de la neige, c'est surtout lié à l'élevage du renne. Puisqu'il y a un besoin aussi d'expliquer quelle est la condition de la neige, si c'est une neige qui permet aux rennes d'avoir accès au pâturage ou pas, ou bien pour le transport, si c'est une neige, par exemple, pour se déplacer en ski ou en scooter. Donc c'est des conditions environnementales qui sont très importantes et il faut avoir un terme pour en parler.
Le renne, l'élevage du renne, c'est encore très très important dans la culture sami aujourd'hui. Même si, comme je l'ai dit, par exemple, Eva Corentin, c'était son cas. Elle vit dans un appartement ici à Umeå ou dans une maison. Elle ne suit pas la transhumance des rennes.
Non, seulement une minorité des Samis sont éleveurs de rennes aujourd'hui. Mais il y en a encore. L'élevage du renne est bien sûr différent aujourd'hui comparé à quand on parle de la transhumance et dans le trajet. On peut utiliser des camions, des hélicoptères aussi pour aider les rennes. Pour la transhumance, qui était la transhumance avant avec en skiant et en traînant. Mais la relation, l'élevage du renne comme critère identitaire, de sentiment d'appartenir au groupe Sami est très important. Donc aussi la terminologie, les connaissances autour des conditions d'élevage du renne sont très importantes, même pour les Sami qui ne pratiquent pas l'élevage du renne.
Alors les Sami sont très très en colère et ils revendiquent beaucoup, ils sont très très virulents contre l'implantation des mines. Évidemment, la Suède est un grand pays minier, il y a des mines de charbon, il y a des mines de fer, et notamment des mines de fer dans le grand nord là, de la Suède, encore plus haut qu'Umeå, et les Sami sont très très opposés à l'exploitation du fer. Pourquoi ?
Oui, c'est un gros problème actuellement. Il y a l'exploitation minière, et comme vous dites, c'est rien de nouveau en Suède, mais il y a de plus en plus de compagnies internationales qui veulent s'établir en pays sami, donc dans les zones qui sont utilisées pour l'élevage du renne. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas dont vous parlez le plus récemment, c'était dans la région de Jokkmokk, placée sur le cercle polaire, qui est des terres traditionnelles sami, où on parle d'installer une nouvelle mine, de construire une nouvelle mine. Et dans ce cas précis, ça voudrait dire que l'élevage du renne est pratiquement impossible, puisque que les rennes ne pourront pas utiliser le cheminement et l'accès au pâturage qui est nécessaire pour les éleveurs de rennes pour continuer à pratiquer donc l'élevage du renne, pas seulement comme un mode de vie simplement financier, mais aussi tout ce qui est lié à la culture sami, etc.
Alors, comme je le disais, les sami, on connaît presque pas le mot en français, on dit plutôt les lapons, et les lapons, on n'aime pas qu'on les appelle des lapons.
Non, c'est péjoratif maintenant, c'est le nom qui a été donné par les colonisateurs, donc par la Suède, les Suédois et les Norvégiens, et alors que le nom que les Samis ont eux-mêmes dans leur langue ont donné, c'est Sami, c'est pas Lapon. Donc maintenant, c'est très péjoratif, c'est pas, on dit pas ça, on dit pas Lapon.
Alors, dans le monde Sami, il n'y a pas quatre saisons, comme chez nous ici en Europe, il y en a huit.
Oui, et le Umeå 2014, donc la capitale européenne, a construit beaucoup les inaugurations et les différents monuments.
Vous êtes en train de me voler ma transition.
Je viens de m'en penser. Oui, ce sont les huit saisons qui sont aussi basées sur l'élevage du renne, les différentes activités qui sont faites et pourquoi. Donc les différentes transitions de saison à l'autre sont aussi incluses. Donc il y a le printemps, la saison entre le printemps, l'hiver et le printemps par exemple.
Il y a huit saisons. Et dans le Umeå 2014, dans la programmation Margaret Ritaling, il y a aussi huit saisons.
Absolument. Et pour nous, ça a été une manière aussi de manifester que la culture sami est importante, mais bien sûr, idée artistique, pour donner une structure qui permet à garder l'intérêt pour le programme, pour l'année, pendant toute l'année. Et pour ça, on a une sorte d'inauguration, une marque, chaque changement de saison avec un spectacle en quelque sorte, beaucoup de musique, etc.
Quelle est la philosophie du Umeå 2014? S'il fallait résumer en un seul mot, on a voulu...
On a vraiment voulu créer l'année dans le sens de la co-création. Et la raison d'entrer dans la concours, comme j'ai dit,
c'est parce qu'on a déjà à Umeå un très sens de l'importance de la culture pour la municipalité, une des municipalités en Suède qui donne le plus de grande partie de son budget à la culture, et le budget des cultures sont toujours très
élevé.
Pas très élevé, mais en comparaison, Umeå, ça va bien, c'est bien.
On fait un rapide petit tour de la table. Qu'est-ce que vous avez retenu, les uns et les autres? Qu'est-ce qui vous a marqué dans Umeå 2014? Qu'est-ce qui a, voilà, on est à peu près au milieu de la programmation. Qu'est-ce qui a été le phénomène marquant, la manifestation marquante d'Umeå 2014 jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui?
J'ai vu des rennes.
Copélie de coq.
Oui, j'y étais, j'ai réussi.
Vous avez réussi à franchir la foule.
Je suis venue assez tôt, j'étais préparée, donc j'ai réussi à avoir une bonne place, j'ai réussi à voir. Non, mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit des chanteurs samis qui sont connus, établis en pays samis, mais peut-être qui n'étaient peut-être pas connus pour tout le monde en Europe.
Même ici, peut-être à Umeå.
Et surtout ici à Umeå. Et c'est, je pense que c'est aussi symbolique de l'année 2014. À Umeå, c'est que Umeå est en pays sami. Umeå s'appelle aussi Uppmäe. C'est bon de connaître le nom sami de la ville, Uppmäe. Et ça a été l'occasion, à la fois l'inauguration et au long de l'année aussi, de rendre la culture sami plus visible. Montrer qu'Umeå est en pays sami.
Maline Saxon, qu'est-ce que vous avez retenu des 6 premiers mois de Umeå 2014?
Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'inauguration. Il faut dire aussi que tout se passait donc par un froid extraordinaire. C'était au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Et tout se déroulait sur la rivière gelée, où il y avait donc des scooters de neige, des traîneaux de rennes, enfin toutes sortes de choses, des danseurs, etc., sur la glace. Et c'était assez spectaculaire, je dois dire.
Alors la rivière, moi, je ne vais pas me hasarder à prononcer le nom de la rivière qui me bien à mon secours pour prononcer le nom de la rivière.
Eh bien, la rivière s'appelle Umeälven. C'est la rivière d'Umeå.
C'est la rivière d'Umeå. Alors, qu'est-ce qui restera d'Umeå 2014? Parce que souvent, c'est l'occasion de construire des nouveaux bâtiments, c'est l'occasion de changer l'urbanisme, c'est l'occasion de changer le regard sur sa propre ville. Qu'est-ce qui restera de Umeå 2014? Alors, cette fois-ci, je me réadresse à Margareta Ling.
Je pense que c'était le projet, l'année culturelle, a démarré beaucoup de projets qu'on avait projetés depuis longtemps, mais le fait qu'on sera ville capitale européenne de la culture a vraiment démarré. On a fait les choses qu'on avait projetées depuis longtemps.
Et parmi les choses qui ont été faites, alors peut-être pas à l'occasion de Umeå 2014, il y a ce fameux Build Museet, Britta Taljedal. C'est un grand musée. Et ce qui est l'originalité de ce musée, c'est qu'il n'a pas de collection permanente.
Non, pas du tout de collection permanente seulement. Et nous montrons des expositions temporaires. Cette année, nous faisons 18 expositions temporaires et nous montrons l'art de tout le monde. Et nous ne travaillons pas beaucoup avec Stockholm, mais de tout le monde. C'est comme ça. Et par exemple, nous avons montré une exposition super intéressante de l'artiste française Léonore Fini. Et on a inauguré l'année avec Léonore Fini. Et aussi, nous montrons 8 différentes expositions des jeunes artistes et de racines sami. 8 et nouveaux expositions avec des nouveaux œuvres.
Alors effectivement, on l'aura compris, la culture sami, peut-être la réévaluation du monde sami à Umeå, Copie du Coq, c'est un thème central de Umeå 2014. En tout cas, vous le ressentez comme ça?
Oui, je pense que c'est explicitement dans la demande de la candidature qui avait été déposée aussi, qu'Umeå a voulu mettre en valeur la culture sami comme une faisant partie de la ville.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.
Alors, on pourrait connaître Umeå pour tout un tas de raisons. Par exemple, c'est ici qu'est né et qu'a grandi Stieg Larsson. Et Stieg Larsson, beaucoup, beaucoup de gens le connaissent, Malin Isaksson.
Eh bien oui, par la trilogie Millennium, si c'est le titre en français.
Millennium, oui. Évidemment un succès mondial. Il a grandi ici à Umeå.
Il a grandi à Umeå, je ne sais plus les détails. Non, il était jeune, il a passé sa jeunesse à Umeå. Il est né, je crois, un peu plus au nord. Mais il a vécu à Umeå, oui, c'est exact.
On pourrait connaître Umeå également parce qu'il y a un groupe punk, je vais le qualifier comme ça, qui s'appelle Refused, et qui marche très fort, Gaïssa.
Oui, ah oui, c'est un groupe très connu et en fait une vraie culture de punk et de straight edge, si l'on veut aussi. Hein. Ça, c'est un des aspects de Umeå que moi je trouve le plus passionnant en fait. Hein. C'est culture de do it yourself.
Alors on pourrait connaître aussi Umeå parce que c'est, paraît-il, ici, là, évidemment, je n'ai pas vérifié, qu'on a découvert la première paire de skis. Qui veut rebondir sur la première paire de skis?
Je ne sais pas si on peut dire la première, mais en tout cas le ski le plus ancien a été trouvé dans un étang ou un marais de la région.
Et il aurait plusieurs milliers d'années, c'est ce qu'on dit.
4-5 mille ans, il y a.
Pour nos auditeurs du...
Oui, c'est, on dit que c'est ils sont plus vieux que les pyramides.
Alors là, tout le monde autour de cette table n'en revient pas, moi le premier. Alors pour nos auditeurs du bout du monde, on vient de parler de ski, car évidemment, je parle de nos auditeurs par exemple en Afrique, en Haïti, au Cambodge, car il y a la notion de climat qui est importante. Aujourd'hui, on est au mois de juin, à Umeå, le jour ne se couche jamais. Même à minuit, on peut prendre son journal et le lire sans problème à la lumière du jour, sans aucune difficulté. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes lorsqu'il faut s'endormir, peut-être endormir les enfants. Madeleine Isaacson, non?
Oh non, nous, on s'y fait à force. Nous, on a l'habitude. Mais j'apprécie beaucoup la lumière d'été. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout qu'ils nous font une sorte de compensation après l'hiver qui est très très long.
Parce que si l'été, le jour ne se couche pas, l'hiver, le jour ne se lève pratiquement pas.
Pratiquement pas au mois de décembre. Il y en a quoi, 3-4 heures de jour.
De quelle heure à quelle heure? Julien Weber.
Oui, parce que si en plus le temps est nuageux, on ne se rend même pas compte qu'il fait jour. Donc c'est entre...
Ouais, c'est, tout 10 à 14 heures peut-être.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Il y a une lumière qui est très faible parce que le soleil ne se lève pas très haut dans le ciel, donc
tout à fait.
Ça ne fait pas vraiment journée. Hein.
Alors, comme il dit, vous vouliez rajouter quelque chose?
C'est pour ça qu'on aime la neige, parce que la neige est claire et nous donne de la lumière.
Ah, elle reflète effectivement le peu de lumière.
Voilà, donc même si elle a peu de lumière, on apprécie d'avoir la neige, ça donne un petit peu plus.
Alors, la neige, évidemment, c'est un concept pour un certain nombre de nos auditeurs. Hein, comment on utilise la neige? On glisse dessus avec les skis, les fameux skis, les motoskis?
On peut.
On vit avec?
Oui.
Ouais, ouais.
On peut même se rouler dedans. En sortant du sauna, c'est exotique.
Ça, c'est exotique pour nos auditeurs qui vivent en partie sous les tropiques. Alors, on comprend bien comment on peut vivre avec 24 heures de jour, mais comment on peut vivre avec juste 2 ou 3 heures d'ensoleillement par jour, Brita Teleldan?
Bon, c'est un peu dur. Ah, je dois dire, je suis née en Laponie, mais quand même, je ne suis pas habituée. Et je fais beaucoup de ski parce qu'il faut le faire, il faut utiliser la neige parce qu'autrement, seulement rester à la maison, c'est embêtant.
Alors, on a parlé, et par exemple, Olof Reidal, à plusieurs reprises, il a dit on est fiers d'être à Umeå. Et Kaïssa Danielson, à côté, a confirmé qu'on était fiers d'être à Umeå. Est-ce qu'il y a une certaine façon de vivre le bonheur à Umeå? Qui veut répondre, Kaïssa?
Oh, c'est une question extrêmement difficile. Moi, je suis très heureuse ici, hein, parce que, comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est ni trop grand, ni trop petit, donc c'est facile d'avoir accès à tout ce qui te donne le bonheur, mais après, c'est à tout le monde à définir le bonheur, je ne peux pas dire.
Julie Weber, vous qui connaissez la France par définition, puisque vous êtes né en France.
Oui, j'ai vécu longtemps en plus.
Et vous, voilà. Qu'est-ce qui explique cette différence entre cette notion de bonheur en France et cette notion de bonheur en Suède?
Alors, pour ma part, je trouve qu'elle est multiple. Premièrement, ce qui est très appréciable à Umeå, c'est le calme, la sérénité qui y règne. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de stress à Umeå. Et c'est ce que les Français qui viennent ici pour la première fois remarquent au bout de peu de temps. Même au supermarché, aux heures de pointe, les gens sont calmes, personne ne s'énerve. Et les gens ne se compliquent pas la vie ici en Suède. Le climat est déjà assez dur depuis, je pense, naturellement. Donc ça ne sert à rien de dépenser l'énergie pour rien. Et ensuite, le cadre est agréable, la nature est très présente, omniprésente à Umeå. Il y a des petits bouts de forêt un peu partout. On peut être en centre-ville et puis voir un écureuil qui descend d'un arbre pour grimper dans un autre. Il y a les mouettes, il y a beaucoup d'animaux, c'est très, très agréable. Et en plus, il y a beaucoup de possibilités. Moi qui suis français, j'ai fait des choses en Suède, à Umeå. Je n'imaginais même pas qu'il était possible de faire. Par exemple, je sais qu'il est très difficile d'être entraîneur de tennis en France, ça demande beaucoup de diplômes, etc. Et un niveau de compétition. Ici, j'ai pu débuter en tant que simple joueur de tennis. J'ai pu commencer à enseigner le tennis et j'ai évolué dans ce domaine. J'ai même démarré une entreprise dans le domaine. Et je suis aujourd'hui enfin entraîneur de tennis. Bon, maintenant, j'ai pris une pause. Maintenant, je fais la restauration. Et ça aussi, c'est une possibilité. Et de par Umeå 2014, d'autres possibilités. Et là, donc, preuve en est que RFI est là aujourd'hui. J'étais inconnu en France et dans le monde. Et aujourd'hui, je suis moins inconnu. C'est quand même extraordinaire. Donc, les possibilités sont énormes. Il y a une université qui est très dynamique, très jeune. Les possibilités culturelles sont là. On peut s'exprimer très librement à Umeå. Je pourrais parler aussi de l'économie. Très facile, l'acquisition de la propriété est très simple, je trouve, en tout cas à Umeå et en Suède en général. Alors peut-être pas à Stockholm, c'est plus difficile les capitales, mais voilà, en tant qu'étudiant, j'ai pu faire beaucoup de choses ici et je continue à pouvoir en faire et je pense que ça va continuer.
Maline Saxon, une bonne raison de venir à Umeå?
L'été, c'est la lumière, ça c'est pour sûr. Même si on n'a pas techniquement, on n'a pas le soleil de minuit, mais c'est presque comme si on l'avait. Et ça, c'est une expérience, je trouve.
Copilicoque, une bonne raison de venir à Umeå?
Peut-être justement pour faire l'expérience de ces contrastes dont on a parlé, entre les différentes saisons, mais aussi le fait de... Umeå est une ville très, comme vous l'avez compris maintenant, je pense, très vivante. Il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, en prenant le vélo à 5 minutes, il y a un lac où vous pouvez faire un plongeon, ou aller à l'aérodrome, faire un tour en planeur, ou se retrouver dans un environnement complètement différent, plus apaisant.
On n'a pas dit c'est combien de kilomètres de Paris. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave.
2h30 d'avion.
D'accord, oui, mais ça... c'est pas grave, si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Margaret Lingon, on a compris en tout cas que Umeå... Il fait bon y vivre, il fait donc bon y venir.
Hein? Absolument.
Vous avez vous aussi peut-être une bonne raison d'inviter nos auditeurs à venir à Umeå?
Absolument, on a déjà donné de très bonnes raisons pour venir ici, mais il faut ajouter bien sûr que c'est une ville très culturelle. C'est une ville surtout où domine la musique, mais il y a aussi une scène d'art très spectaculaire pour une ville de notre taille.
Et en tout cas, Umeå aspire à grandir.
Oui, on aspire à grandir. On s'est fait une but assez haussé peut-être, de doubler son nombre d'habitants.
Donc 200 000, 250 000.
Oui, avant 2050.
Bonne chance Umeå en 2014, 2015, 2016 et jusqu'à 2050. Merci à tous en tout cas d'avoir été à ce carrefour de l'Europe très 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 septentrional. Un grand merci à Margarita Ling qui nous a beaucoup aidé, qui a assuré les traductions, etc. etc. J'en passe. À Petra Gustafsson de l'ambassade de Suède à Paris. Réalisation et technique Guillaume Munier. Plein de choses vous attendent sur la page de Carrefour de l'Europe via RFI.fr. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Esquel, où que vous soyez à Umeå, un peu plus au nord encore ou un peu plus au sud, ça peut arriver. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on se quitte avec la Nickel Harpa de Torbjörn Nesbom.